Oscar Miloš, Contes et fabliaux de la vieille Lituanie. Les 12 vagabonds et le nommé Jean. Il était une fois un pauvre jouvenceau qui travaillait chez un fermier et recevait tous les ans à la Saint-Jean, fête de son patron, un pain bis et 3 sous tournois. À la fin de sa 3e année, las de suer sang et eau pour un si maigre salaire, il tira son bonnet au vieux Lavre, prit sa besace et s'en fut par monts et par vaux. Un matin, à l'entrée d'un bourg, il avise un mendiant qui lui tend sa sébile. Il y jette 3 piécettes et remet au pauvre hère l'un des pains secs qu'il portait sous le bras. Un peu plus loin, accroupi sur les marches d'une église, un autre gueux lui déclare en toute simplicité qu'il mangerait volontiers un morceau. Comme le premier, il reçoit 3 sols et une galette. Enfin, en traversant un pont de bois où étaient représentées les stations de notre Seigneur, le voyageur se défait du reste de ses liards et de son pain en le déposant sur le plateau d'un vieux chien barbet qui demandait l'aumône pour son maître aveugle et faisait le beau devant les âmes charitables. Débarrassé de tout son avoir terrestre, Jeanne aux misères continuait gaiement son chemin, non pas sans attirer sur son passage maintes œillades assassines, car il était propre, bien fait de sa personne, et son visage encadré de beaux cheveux blonds reflétait la bénignité de son naturel et la paix de sa conscience. Il répondait à ses minaudières par un regard qui semblait s'adresser à leur être intérieur, plutôt qu'aux grâces d'un jour dont Dame Nature les avait parées. Tout en musant de la sorte, il arriva à un carrefour obscur et d'aspect sordide, où il se vit tout à coup, face à face, avec 12 mendiants à la fois. Tout honteux de n'avoir plus rien à tirer de son bissac, il prit son air le plus délibéré et passa outre. Mais l'un des mendiants, se détachant de l'étrange groupe, se mit aussitôt à sa poursuite, et il n'avait pas fait 20 pas qu'un autre, plus agile, lui barrait le chemin et l'apostrophait en ces termes. « Quelle mouche te pique de détaler comme si notre apparition donnait la teigne ou la peste !»« Hélas !» répliqua le pauvre Jean, « hélas, mes bons amis, c'est que je n'ai rien à vous donner, rien !» si ce n'est une pensée venue du fond de mon cœur. » Les autres mendiants eurent bientôt fait de le joindre à leur tour, et celui qui paraissait être le chef de la bande lui adressa ces paroles. « En vérité, je te le dis, nous ne te demandons rien. Nous voudrions, au contraire, te faire un petit présent. Allons, dis-nous bien vite ce qui te ferait plaisir. » Le vagabond qui parlait portait sur l'épaule un gros sac de cuir et s'appuyait sur un bâton noueux. Un de ses compagnons souffla à l'oreille de Jean. « Demande le ciel, car c'est Jésus-Christ qui te parle. » Mais le jeune homme médita un instant et dit « Ce qu'il me faudrait, c'est le sac que voilà, car on y pourrait, je gage, renfermer l'univers tout entier. » Notre Seigneur lui tend l'objet convoité. Quand tu voudras y mettre quelque chose, tu n'auras qu'à dire « dans le sac ». Et la chose, quelle qu'elle soit, y sautera toute seule. Mais ce cadeau, te satisfait-il? Certes, le sac est fort beau, mais ton bâton, lui aussi, me pourrait être utile. Jésus-Christ lui abandonne aussitôt son gourdin. Quand tu auras arrossé quelque hypocrite, quelque marchand du temple, tu commanderas simplement « Vas-y, bonne trique !» Et tu verras un peu, si la crosse du pasteur a été bien dressée. Jean remercia le fils du mari et voulut s'éloigner. « Attends encore, mon enfant. Es-tu bien sûr de n'avoir plus rien à me demander? Réfléchis un peu. » De rechef, un des apôtres chuchote à l'adolescent « Demande le ciel, et tourneau, demande le ciel !» Mais Jean, rentrant en soi-même, se dit « Le ciel, On me le donnera bien quelque jour si je le mérite. Pour le moment, je suis sur terre. Puis, se tournant vers le sauveur, sac et bâton me remplissent de joie, mais la pipe du compagnon que voici mettrait le comble à ma satisfaction. Le fumeur ôte de sa bouche la bouffarde. Prends-la, mais comme que tu fasses, tu ne la fumeras jamais jusqu'au bout. Ravi, Jean se recommande aux prières de toute la bande et s'éloigne d'un pas alerte. Sur la brune, il arrive à une ferme et demande abri pour la nuit. Toute la famille aussitôt de geindre en cœur. Nous voudrions bien, mais la maison est hantée et nous la quittons nous-mêmes tous les soirs pour aller dormir ailleurs. Les diables et les revenants, ça me connaît, répliqua notre voyageur. Partez si le cœur vous en dit, mais laissez-moi camper ici jusqu'à demain. Quand toute la maisonnée eut vidé les lieux, Jean mit son sac sous l'oreiller, son bateau au pied du lit et alluma tranquillement sa pipe. Il en avait à peine tiré une bouffée que toute la chambre se remplissait de diables se pressant vers l'alcôve. Le plus âgé des intrus ordonna au jeune homme de déguerpir sur le champ. Impossible, avant d'avoir fumé ma pipe jusqu'au bout. Le démon réplique. Donne-la-moi, je la finirai plus vite que toi. Et, saisissant le brûle-gueule, il se mit à en tirer des nuages si épais et des éclairs si rouges que ses compagnons eux-mêmes, pourtant accoutumés de longues mains à la sarabande de la poix et des flammes, en écarquillèrent les yeux de surprise, en jurant par les 13 cornes et les 100 000 écailles de Lucifer, leur roi. Mais tous les efforts du doyen furent vains. Le pétain ne diminua pas d'une once dans cette fournaise. Furieux, le vieux diable jette la pipe sous le lit et crie « Hors d'ici, graine de paradis, au large !» Mais Jean se contenta de prononcer les paroles sacramentelles « Dans le sac, dans le sac !» Et il y ajouta ces mots de son cru « Tant vaut leur intérieur, tant valent les choses, les êtres et les enseignements. » Il dit « Et le sac se referma sur 36 millions de diables. Au petit jour, le fermier, suivi à quelque distance de sa famille et des valets, reprit le chemin de la maison et à l'instant de lever le loquet, il se dit en lui-même « Qui sait, peut-être le pauvre a-t-il déjà tourné de l'œil ?» Il ouvre la porte. Mais Jean, qui s'attendait à un nouvel assaut des légions cornues, de hurler « Dans le sac, dans le sac !» Et voilà le fermier qui, lancé par une invisible catapulte, donne de la tête dans le postérieur de l'infernal connétable. Peu après, toute la maisonnée, qui redoutait si fort les esprits du mal, s'allait jeter dans leurs jambes au fond du sac. Les pauvres Benets eurent quelques difficultés à convaincre notre Jeannot de sa méprise. Il finit cependant par les relâcher, mais en leur recommandant de marquer à l'avenir un peu plus de confiance à la protection de Dieu et de ses anges. Pour ce qui est des diables, il les jeta sur son dos et les porta jusqu'à la forge voisine. Là, s'armant d'un marteau, car le bâton de notre Seigneur ne lui paraissait pas assez solide, s'armant, dis-je, d'un marteau, et jetant sur l'enclume le sac d'où s'échappait à présent l'épouvantable puanteur de toute la sottise, incrédulité et cruauté de ce monde, il se mit à taper, ah miséricorde divine, à taper avec un si bel entrain que les diables, à la quatrième ou cinquième de ses passes magnétiques, lui promirent tout ce qu'il voulut, et surtout, de laisser en paix les esprits engagés dans la recherche de la signifiance intérieure de certains faits et de telles paroles. Ils ne lui en demandèrent, en retour, que la permission d'emporter dans leur demeure souterraine un pendu qui se balançait à un gibet au carrefour voisin. Quelque temps après cet exploit, le pauvre Jean rendit le dernier soupir et alla frapper à la porte du ciel. Saint-Pierre l'entr'ouvrit prudemment, considéra longuement le voyageur, le reconnut à la fin et lui dit « Ah ah, nous y voilà. Tu n'as pas voulu m'écouter quand je te soufflais à l'oreille de demander à notre Seigneur le ciel. Aujourd'hui, tu voudrais l'obtenir de moi ? Va-t'en voir s'il pleut. Je te connais. Tu as tourné et retourné mes paroles 100 fois dans ton esprit, mais elles n'avaient qu'un sens unique, celui que je leur donne avec tous les vrais honnêtes gens. » « Assez !» cria Jean. « Assez pour la patience comme pour le reste. Il n'y a qu'un temps, et un temps est la moitié d'un temps. Dans le sac, dans le sac !» Et comme le bon Saint-Pierre, un peu surpris, tâtait la gueule de cuir béante, « Non pas, non pas, tu tâteras la paroi intérieure. » Saint-Pierre fait « Hop !» dans le sac. Notre voyageur poursuit son chemin, rencontre enfin Dieu le Père, dépose son fardeau et se prosterne. N'aurais-tu pas vu Saint-Pierre par hasard ? Voilà une bonne éternité que je le cherche. Saint-Pierre, ô mon Créateur, mon Dieu, mon tout, Saint-Pierre, mais il est là, dans mon sac, en train d'entâter l'intérieur ? L'intérieur, répliqua Dieu le Père, l'intérieur ? Assez de ce jeu ! Ne dirait-on pas ma parole qu'en dehors de toi et de tes pareils, personne ne le connaît ? Tu mériterais, mais sois tout de même le bienvenu. Je finirai peut-être par te faire comprendre que la lettre, la simple lettre, entends-tu, renferme déjà tout votre intérieur, et le reste est bien autre chose. Quant à Saint-Pierre, tu vas me le relâcher sur le champ. Quoi ? Eh oui, je le sais, patati et patata. Mais que deviendrions-nous s'il ne gardait pas la porte ? On serait envahi par tout ce qu'il y a de sacripants et de radiocineurs sur terre. Sans compter les imbéciles, ajouta le Seigneur, avec un profond soupir.